Alléluia. C'est vrai, bien-aimé, que c'est la Pentecôte. Mais je ne viens pas prêcher particulièrement sur la Pentecôte, même si certainement on va faire des clins d'œil. Pour autant, chacun sait que, en tout cas, je sais que je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Alléluia, sans le Saint-Esprit, je vais venir ici, je vais peut-être te faire un discours, mais il sera peut-être creux, en fait. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui véhicule la vie dans tout ce que je peux faire. La Bible dit dans Genèse 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il a formé l'homme et ensuite il a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Sans le souffle de vie, l'homme était sec. Jean 20 au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Effectivement, ils étaient ensemble physiquement dans le même lieu. Mais au-delà de ça, j'ai envie de te dire qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu spirituel. Ils étaient en accord. J'aime la version King James, Papy Greg. La Bible dit, la Bible dit dans la version King James, they were all in one place, in one accord. Ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, de même accord. Alléluia. Est-ce que tu es en accord avec moi ce matin? Parce qu'ils étaient en accord, bien-aimés, quelque chose va se manifester. Parce qu'ils étaient en accord, le Saint-Esprit va se manifester. Alléluia. Je vais t'inviter simplement, bien-aimés, à connecter avec moi, à être en accord spirituel avec moi, à te positionner dans le même lieu spirituel que moi ce matin. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, on veut reconnaître sa présence. Quand le Saint-Esprit est là, on veut se soumettre à son autorité. Quand le Saint-Esprit est là, on veut s'effacer pour lui laisser toute la place. Quand le Saint-Esprit est là, on veut le laisser conduire. Quand le Saint-Esprit est là, on veut l'adorer. Voilà pourquoi je veux dire ce matin que je t'adore, ô Dieu. Tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, tu peux répéter avec moi, je t'aime tant, je t'aime. Encore une fois, je t'aime tant, Saint-Esprit. Have your way, O Lord. Prends toute la place, Esprit du Dieu vivant. Nous voulons nous soumettre ce matin à ton autorité. Nous voulons te laisser toute la place afin que tu prêches toi-même cette parole. Nous voulons te laisser la place afin que tu touches un cœur. Nous voulons te laisser la place afin que mes mots, Seigneur, puissent résonner en esprit, afin que mes paroles, ô Dieu, puissent toucher et transformer, encourager. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux me rejoindre dans Hébreux 11, Hébreux 6? Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6, on va lire à partir du verset 13. Hébreux 6, à partir du verset 13. Je vais lire. Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Verset 15, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Verset 16, « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Verset 19. « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. » Alléluia. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci de faire ce que tu veux. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'elle ne te revient pas sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle est proclamée ce matin. Au nom de Jésus, amen. Le pasteur Alain a dit que peut-être que quelqu'un s'est peut-être éloigné de Dieu ou que peut-être que quelqu'un a besoin du Seigneur. Eh bien, tu as peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure éventuellement pour hésiter, parce qu'on va éventuellement, peut-être, si le temps le permet, te donner la possibilité de reconnecter avec Dieu à la fin. Amen. Bien-aimé, l'un des effets de la présence du Saint-Esprit dans ma vie, c'est l'espérance qu'il me donne. Et ma mission ce matin, c'est de te partager mon espérance. Tout simplement parce que j'ai une espérance. Dis avec moi, j'ai une espérance. J'ai une espérance. J'ai une espérance et ce sera le titre de mon message. J'ai une espérance. La question induite pour toi, c'est est-ce que tu as une espérance? Peut-être que ce matin, tu es là et tu as perdu tout espoir. Peut-être que ce matin, tu es là et que ton quotidien, c'est le désespoir. Peut-être que tu as perdu la confiance. Peut-être que l'environnement. Peut-être que tu as différentes difficultés de quelque nature que ce soit. Peut-être que tu es là ce matin et que tu n'espères plus en demain. Peut-être qu'au niveau de la famille, c'est compliqué. Au niveau des enfants, c'est compliqué. Peut-être que financièrement, c'est compliqué. Mais je viens de te dire de la part du Seigneur ce matin que j'ai une espérance. Et que si tu es en Jésus-Christ comme je suis, tu dois retrouver l'espérance. Je ne te le dis pas simplement pour te le dire. Je vais te dire pourquoi j'ai une espérance. Et je te garantis qu'à la fin, bien-aimé, si tu étais affaibli, tu retrouveras la force et de l'espoir. J'ai une espérance. Juste quelques éléments de contexte pour le texte, pour remettre le texte dans son contexte. Nous sommes ici dans Hébreux. Le livre d'Hébreux, bien-aimé, a pour but de présenter la pleine suffisance et la supériorité de Christ. Dans Hébreux 1, la parole déclare au verset 3, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. » Paul dit dans 1 Timothée 3, verset 16, « Il est grand le secret du plan de Dieu. » Virgule, il mène virgule. « Le Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain, mais attention, il est un Dieu redoutable et puissant. » C'est vrai qu'il est l'agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, il doit être clair pour toi que nous servons un Dieu puissant, qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Nous servons un Dieu puissant qui est omniscient, qui sait tout. Nous servons un Dieu puissant, qui est présent partout en même temps. Nous servons, bien-aimé, un Dieu puissant. La Bible dit dans Ésaïe 45, au verset 5, « Je suis l'Éternel. » Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Dieu va dire à Moïse dans Exode 3, verset 14, « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Bien aimé, je te dis tout ça simplement pour te rappeler que nous servons un Dieu puissant. Amen. Et les mots ont une importance lorsqu'il s'agit de saisir les réalités spirituelles. Et ce matin, je suis venu te dire que j'ai une espérance. Et lorsqu'on évoque le mot espérance, bien souvent on exprime une incertitude. Reste bien avec nous, nous allons quelque part. Les mots ont une importance pour saisir les réalités spirituelles. Quand on dit espérance, le mot espérance est souvent entaché d'incertitude. Et dans ce sens, l'espérance exprime un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Je vais prendre deux exemples pour illustrer. J'espère qu'on aura le beau temps pendant les vacances. Tu espères, mais tu n'as aucune certitude. Même si tu prends tes vacances au 15 août, tu as zéro certitude que tu vas avoir le beau temps. Tu espères, mais c'est une grande probabilité. J'espère qu'il arrivera à l'heure. Tu espères, mais tu n'as aucune certitude. Il suffit qu'il y ait un bouchon en plein cœur de sens. Il n'arrivera pas à l'heure. Peut-être qu'il n'arrivera même pas. Tu espères, mais tu n'as aucune certitude. Bien souvent, on utilise le mot espérance pour exprimer notre désir de voir l'accomplissement de quelque chose de positif dans le futur. Mais tout cela est entaché d'incertitude. Mais bien-aimé, je continue d'avoir une espérance. Et la mienne d'espérance, elle est complètement différente. Pourquoi ? Parce que la parole nous dit au verset 18 qu'elle est fondée sur deux choses immuables. Suis bien. Mon espérance, elle est certaine parce qu'elle est fondée, parce qu'elle a des piliers. La parole nous dit au verset 18 qu'elle est fondée sur deux choses immuables dans lesquelles, c'est la Bible qui dit, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Bien aimé, ce qui est immuable, c'est ce qui ne change pas. Et au fond, lorsqu'il parle d'immuabilité, il te révèle un caractère de Dieu. Car les Écritures nous enseignent qu'il est le même hier, aujourd'hui et il ne change pas. Jacques 1, verset 17, va nous dire qu'il n'y a chez le Père ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai une espérance. Et mon espérance, elle est certaine. Certaine parce que, fondée sur deux choses immuables. D'un côté, non seulement elle est fondée sur le serment, mais aussi sur une promesse. Voilà les deux piliers de mon espérance, une promesse et un serment. On va observer rapidement le serment. Les mots ont une importance pour saisir les réalités spirituelles. Serment vient du latin sacramentum. Il y a une notion de sacré dans le serment. Le serment est une promesse solennelle, particulièrement ferme. Voilà pourquoi mon espérance est certaine. Il y a dans le serment une portée divine. Dans le serment, bien aimé, il y a un engagement personnel, clair et sans équivoque de la personne qui prête serment. Et celui qui prête serment ici, c'est qui ? C'est Dieu lui-même. Bien aimé, est-ce que tu me suis ? Celui qui prête serment ici, c'est Dieu lui-même. Et c'est là la particularité de ce pilier de mon espérance. Un serment fait par Dieu lui-même. Et là, ça devient intéressant, les amis. Et tu comprends alors pourquoi mon espérance est certaine. Un serment fait par Dieu lui-même. Maintenant, la question qui se pose, c'est que se passe-t-il lorsque Dieu lui-même fait serment ? Lorsque Dieu fait serment, bien-aimé, ça produit lise. Pourquoi ? Parce que la signification de Lise, c'est Dieu a fait serment. C'est un petit clin d'œil. Bien aimé, le verset 16 nous montre que, ne serait-ce que dans l'ordre naturel, dans l'ordre humain, le serment est une garantie qui rend ferme ce qui a été convenu. À combien plus forte raison lorsque le serment vient de Dieu lui-même, la chose s'accomplira certainement. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Voilà pourquoi je peux te dire ce matin que tu vas enfanter. Je peux te dire ce matin que tu vas enfanter. Ton voisin n'a pas compris. Peut-être que tu vas enfanter naturellement si c'est ton souhait. Mais tu vas enfanter surtout ce que Dieu a dit sur toi. Tu vas enfanter les projets de Dieu pour ta vie. Tu vas enfanter les rêves, les visions que Dieu a pour ta vie. Bien-aimé, s'il est la source de la vision, il donne toujours la provision. Alléluia. Il donnera toujours la provision s'il est la source de la vision. Et je veux déclarer ce matin sur ta vie, sur ta famille, sur tes finances, un ciel ouvert sur ta santé, un ciel ouvert. Je veux déclarer ce matin que la puissance du Saint-Esprit te touche et fait une œuvre de restauration au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi Dieu fait serment? Est-ce que Dieu a besoin de faire serment? Parce qu'il est Dieu, en réalité. Dieu est Dieu. Est-ce qu'il a besoin de faire serment? Pour autant, il fait serment dans le test. Pourquoi il fait serment? La réponse est dans le test, les amis. Dieu fait serment parce qu'il a un but, il a un objectif. Dieu veut te démontrer quelque chose avec plus d'évidence. Il veut enraciner en toi quelque chose. Il veut montrer l'immuabilité de la résolution qu'il prend lorsqu'il fait la promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu fait une promesse, la promesse de Dieu, elle est oui et amen. La promesse de Dieu, elle est définitive. Dieu ne revient pas sur sa promesse. Et il fait serment pour te montrer de façon définitive qu'il ne change pas. Autrement dit, il veut te donner une ferme assurance, une espérance. Mais à qui il veut donner cette espérance? À qui? Eh bien, aux héritiers de la promesse. C'est qui les héritiers de la promesse? Le verset 18 nous dit quoi? Nous, on peut relire, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous qui avons accepté Christ, nous qui sommes justifiés par Christ, nous croyants, nous enfants d'Abraham, les vrais enfants d'Abraham, nous qui héritons de la bénédiction d'Abraham, une bénédiction en Christ, par Christ qui est lui-même semence d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, bien-aimé, c'est le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ. Et le salut en Jésus-Christ, bien-aimé, va produire des effets dans ta vie. Le fait d'être enfant de Dieu produit un double effet, au moins un double effet. En esprit d'abord, être enfant de Dieu signifie que j'ai reçu Christ qui me réconcilie avec le Père. Amen. Ça, c'est la conséquence spirituelle, la réconciliation avec le Père. Et dans mon corps, je reçois la vie éternelle. Jean, verset 6, chapitre 6, verset 47, va nous dire, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Voilà pourquoi, bien aimé, je sais que je ne mourrai pas. Non, ton voisin n'a pas compris. Je dis, je sais que je ne mourrai pas. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu sais que tu ne mourras pas? Parce que j'ai la vie éternelle. Quel est le deuxième pilier de mon espérance, le serment et la promesse. Il y a au moins une personne qui suit. La promesse, le deuxième pilier de mon espérance. La Bible dit dans Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est ça la promesse que Dieu fait. Et nous sommes à la Pentecôte, alors je vais faire un clin d'œil à une autre promesse que Dieu nous fait. Dans Acte 1, au verset 8, il dit ceci, « Vous recevrez une puissance. » Vous savez, les amis, quand nous lisons la Bible, il ne faut pas lire la Bible de façon intellectuelle, même s'il faut servir de l'intellectuel pour comprendre. Il dit, Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit. » Il aurait pu dire, « Vous recevrez le Saint-Esprit. » OK? Vous recevrez le Saint-Esprit, mais il ne dit pas ça. Il dit, vous recevrez une puissance. Il prend le temps, il prend le soin de te dire déjà ce que tu vas recevoir, c'est-à-dire une puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et quand tu regardes l'étymologie de puissance, je sais qu'il n'a pas mis le mot puissance là par hasard. Donc, on a regardé ce que c'était la puissance. La puissance, l'étymologie de puissance vient du latin potestas, qui veut dire pouvoir, qui veut dire domination, souveraineté. Et donc la puissance est le pouvoir de réaliser quelque chose. La puissance est la capacité d'asseoir son autorité, c'est la capacité d'avoir une grande influence. Donc s'il te donne le Saint-Esprit, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu dois dominer. Tu dois asseoir une autorité qui vient de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la puissance d'un appareil, je prends quelques exemples très rapidement, la puissance d'un appareil est un ou d'un mécanisme, est son pouvoir d'action. C'est sa force. Si je prends l'exemple en physique, la puissance reflète la vitesse à laquelle un travail est fourni. Donc on voit ici une association entre puissance et vitesse. En algèbre, la puissance d'un nombre est le résultat de la multiplication répétée de ce nombre avec lui-même. Puissance associée à multiplication. La puissance, bien aimé, c'est le caractère de ce qui réalise beaucoup et de ce qui produit de grands effets et de ce qui impacte. Ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit, bien aimé, tu as une feuille de route qui est puissante. Donc, tu n'as pas le droit de désespérer. Donc, tu n'as pas le droit d'être affaibli. Parfois, ça peut arriver. Mais tu as le devoir de te relever rapidement parce que tu as le Saint-Esprit. Bien aimé, la puissance qu'on fait, la force, la richesse, la santé, la puissance fait la différence. C'est la puissance, bien aimé, elle est dans le Saint-Esprit. Donc si tu sais que tu as le Saint-Esprit et que tu comprends ce que je viens d'expliquer, alors tu dois espérer. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai une espérance. Et c'est cette espérance que je viens de partager ce matin. Alors quelle est mon espérance? Là, je vois ton voisin depuis tout à l'heure, mais il a une espérance, mais quelle est son espérance? Donc là, je vais te dire quelle est mon espérance. Mon espérance, bien-aimé, c'est Christ dans la gloire. Et Christ revenant en gloire, nous prendre pour nous introduire dans la gloire. Je vais reprendre. Mon espérance, c'est Christ dans la gloire et Christ revenant en gloire pour nous introduire dans la gloire. Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Romains 5, verset 2. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien-aimé, mon espérance, c'est une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Alléluia. Pourquoi ? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà pourquoi je te disais tout à l'heure que je ne mourrai pas. Ce n'est pas juste des mots, je ne mourrai pas. Parce que mon espérance, elle dépasse tout ce qui se passe ici. Alléluia. Et quand tu as cette espérance, bien-aimé, ça change tout dans ton fonctionnement. Tout ce qui était grave pour toi n'est plus grave. Hein? Tout ce que tu voyais comme problématique, ce n'est plus un problème. Bien-aimé, mon espérance est ailleurs. Laisse les autres, hein, laisse les autres se distraire, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon sujet. Moi, ce n'est pas mon débat. Moi, j'ai une espérance qui va au-delà de tout ça. Voilà pourquoi tu peux dire, faire ce que tu veux, ce n'est pas grave. Attention, ça ne veut pas dire que j'accepte tout. Hein. Ceux qui me connaissent peuvent vous le dire. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de drame, les amis, parce que j'ai une autre espérance qui dépasse tout ça. Et bien aimé, je vais appuyer ici sur mon espérance dans le retour de Christ qui reviendra nous prendre pour la félicité éternelle. Pourquoi je fais ça? La Bible dit dans Jean 14, verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, tu peux souligner, reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mais il faut faire attention, les amis. Moi, j'aime bien équilibrer les choses. Hein? Là, il s'agit d'une espérance qu'il faut désirer, mais surtout qu'il faut préparer. Vous savez, on est dans des temps particuliers. Hein. Chacun a vu depuis le début de l'année 2020 que les temps sont particuliers. Donc, il faut arrêter de dormir. Mais là, il s'agit d'une espérance qu'il faut désirer, mais surtout préparer. La Bible dit dans Apocalypse 19, partie du verset 7, réjouissons-nous, j'essaie d'aller vite parce que je sais que le timing ici, il est pour le tenir. Apocalypse 19 au verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est... Alléluia. Ça veut dire que c'est une espérance qu'il faut préparer. Ici, je ne suis pas juste de dire, pour ce cas particulier, j'espère, j'ai de l'espérance. Non, il faut... Espérer, c'est bien, mais il faut la désirer et il faut la préparer. Il faut se préparer, il faut veiller, il faut prier. Luc 21, verset 36, « Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes, que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir devant le Fils de l'homme. » Je n'aime pas te décevoir, mais je dois te dire la vérité. Ce que j'ai compris ici, c'est que même dans l'Église, tout le monde ne sera pas élu à cette espérance. Parce que tout le monde ne sera pas enlevé. C'est juste la réalité, je dois te la dire. Parce que dans l'Église, n'oublie pas, il y a des spirituels, il y a des charnels. Il y a le bon grain et... Il y a les vieilles folles et... Voilà. Si tu as compris l'essentiel, tu vas désirer et tu vas te préparer. Alléluia. Bien-aimé, j'ai aussi une espérance pratique. C'est mon quatrième point, une espérance pratique. Parce que c'est bien de te dire que j'ai de l'espérance. Et mon espérance, elle est aussi pratique. Pour maintenant, pour aujourd'hui. Je veux te dire que mon espérance, elle est aussi pour le séjour ici. La Bible dit dans le psaume 27, verset 13, « Que deviendrais-je si je n'avais l'assurance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ?» Que deviendrai-je? C'est l'un de mes versets préférés. Que deviendrai-je si je n'avais l'assurance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants? J'aime beaucoup la version King James, Papy Greg. I have fainted, yet I believe to see the goodness of God on the land of the living. J'ai l'assurance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon espérance est pratique. Ce n'est pas une espérance juste comme ça, il espère, ok. Non, mon espérance est là pour maintenant, pour les défis d'aujourd'hui. Hébreux 10 au verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance, les amis. Je vais répéter ça. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Je répète, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. J'ai une espérance pratique, les amis. Une espérance pratique. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas si tu me suis, est-ce que tu es là? Alléluia. J'essaie de rester calme, hein? Parce qu'en temps normal, là, bon, comme je suis à sens, j'essaie de rester calme, de faire ça bien. Parce que bien aimé, j'ai une espérance. Ce n'est pas de la rigolade. Ce qui me fait espérer, c'est un Dieu qui ne change pas, qui me donne une parole, qui est reposée sur un serment. On a vu ce que c'est que le serment. Et c'est une promesse. J'ai une espérance. Eh bien, mais je veux te rappeler maintenant qu'il n'y a pas d'espérance sans foi. Il n'y a pas d'espérance sans foi. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et tu ne peux raisonnablement pas espérer en quelqu'un que tu ne connais pas. C'est possible ça? D'espérer en quelqu'un que tu ne connais pas? Ça ne serait pas raisonnable. Voilà pourquoi tu dois non seulement le connaître, mais aussi chercher la révélation des différentes facettes de son nom. Et c'est là qu'il va être la réponse à tes défis d'aujourd'hui. C'est là qu'il va devenir ton banquier. C'est là qu'il va devenir ton médecin. C'est là qu'il va devenir ton avocat. C'est là qu'il va devenir ton conseiller. C'est là qu'il va devenir ta source. J'ai une espérance. Impossible d'avoir une espérance sans la foi. Il y a des gens qui nous suivent, je suppose. Que le Seigneur vous visite aussi. Et je vais poursuivre en te laissant une image par rapport à ta foi. Considère ta foi comme un muscle. Considère ta foi comme un muscle. Pour ceux qui ont fait du sport, je sais qu'il y en a beaucoup ici. J'en ai fait un tout petit peu. Je me suis même blessé plusieurs fois. Lorsque tu fais de la musculation, lorsque tu commences de la musculation, tu ne commences jamais, tu ne vas jamais en salle pour soulever tout de suite 100 kilos. Tu vas te faire une déchirure, tu vas te casser quelque chose. Et quand je t'invite à considérer ta foi comme un muscle, il faut comprendre le parallèle pour ceux qui font de la course à pied. Tu ne commences jamais par un marathon. Tu vas commencer par 2 km autour de la maison. Tu vas commencer par 10 tout du terrain, du stade. Qu'est-ce que je veux te dire ici? Je veux rassurer plusieurs que c'est normal de ne pas commencer avec une foi forte. où c'est parfois normal que ta foi faiblisse. Mais ce qui est anormal, c'est que quand tu tombes, que tu ne te relèves pas. Ce qui est anormal, c'est que ta foi ne grandisse pas. Ta foi ne doit pas rester statique, elle doit se développer. C'est pourquoi je prends l'image du muscle. Elle doit se développer, ta foi. Si un muscle ne se développe pas, il s'atrophie. Je me suis blessé au basket. Le pied est resté en immobilisation pendant je ne sais plus combien de semaines. Le premier jour où j'ai posé le pied par terre, j'ai failli tomber parce que la jambe avait perdu ses muscles. Le pied n'était plus solide. Il a fallu que je retravaille avec le kiné, que je muscle à nouveau le pied. Si tu ne travailles pas ta foi, si tu n'exerces pas ta foi, elle va faiblir. Alléluia. Ta foi bien-aimée doit progresser. Et pour qu'elle progresse, tu dois l'exercer. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3, nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Ça veut dire que ta foi doit progresser. La version du semeur dit, en effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Ça veut dire que ta foi doit avancer. Et tu dois mesurer la courbe d'évolution de ta foi. Est-ce que ta foi est au même niveau qu'elle était au 1er janvier 2020? Est-ce que ta foi est au même niveau qu'elle était au 1er janvier 2021? Il faut que tu mesures où est-ce que tu en es de ta foi aujourd'hui. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu me réponds? Et la Bible dit, s'agissant d'Abraham, dans Romains 4, verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, en ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Tu dois muscler ta foi. Qu'est-ce que j'ai compris? Plusieurs clés dans ce court passage, très très rapidement. La parole dit sans faiblir dans la foi. Ça veut dire que ta foi peut faiblir. Mais à l'inverse, tu peux aussi la fortifier. Amen. Il ne considéra point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas regardé la situation avec une vision naturelle. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham. Il n'a pas regardé les choses avec une vision naturelle. Pour fortifier ta foi, bien-aimé, tu dois chasser le doute. Abraham n'a pas douté. Tu dois te rappeler, bien-aimé, les promesses de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie? Quelles sont les promesses de Dieu sur toi? La parole dit, si elle tarde. Vous connaissez cette parole. Si elle tarde, qu'est-ce que ça dit après? Si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Certainement. Ah. Et c'est dans cette dynamique que ta foi est fortifiée. Et là, ton attitude change. Là, ton attitude doit changer. Parce que comme Abraham, tu commences à donner gloire à Dieu. Alléluia. Et avec une ferme conviction, ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Bien-aimé, c'est là mon espérance. J'ai une espérance. Je ne sais pas où tu es ce matin. Je ne sais pas où est-ce que tu en es ce matin de ta marche avec Dieu. Ta marche avec Christ, je ne sais pas quelles difficultés tu traverses, je ne sais pas quels sont tes défis, Ça peut être des défis dans la santé, dans les finances, dans la famille, dans le mariage. Mais bien aimé, j'ai une espérance. Je peux te prêcher plein de messages ce matin. J'en ai plein dans mon ordinateur, mais Dieu m'a mis à cœur de te partager celui-ci. Parce que je sais que quelqu'un a besoin de retrouver de l'espérance. Je sais que quelqu'un a besoin d'être touché par le Saint-Esprit pour retrouver de l'espoir. Je sais que quelqu'un a besoin de renforcer sa foi. Je sais que quelqu'un a besoin de relever la tête. Je sais que quelqu'un a besoin de s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit pour avancer. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais par mon Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce matin, les amis. Alléluia. Le Saint-Esprit est disponible pour te toucher, pour transformer ta vie, pour changer quelque chose dans ta destinée. Le Saint-Esprit, les amis, fait toute la différence. J'ai une espérance. Alléluia. Et bien aimé, j'ai une espérance, mais à quoi bon avoir une espérance si l'espérance s'arrête à mon niveau? À quoi bon avoir une espérance si l'espérance s'arrête quand je ne suis plus là? Quel est mon point? Notre espérance, nous devons la transmettre aux générations qui viennent. J'ai souvent parlé ici pour les jeunes, j'ai souvent parlé ici pour les enfants. À quoi bon, bien-aimé, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que nous faisons, si lorsque on n'est plus là, tout s'arrête. On aura échoué. C'est vrai pour les enfants naturels, c'est vrai pour les enfants spirituels. Alléluia. Et je vais ici te partager un témoignage très très court. Après on va prier, peut-être prendre un chant. On est parti de Sens en décembre 2018. Ma fille Lise, l'aînée, elle venait à peine d'avoir 2 ans. Et donc, on devait l'inscrire à la crèche. Et les amis, il est important, faut pas oublier les enfants, en fait. C'est vraiment important, les enfants. Nous devons transmettre cette espérance aux enfants. Tu fais comme tu veux, tu te fais comme tu veux. Mais ton espérance ne doit pas s'arrêter avec toi. Voilà pourquoi tu dois veiller et prier pour les enfants. Et donc, elle avait à peine 2 ans, on devait l'inscrire à la crèche pour la préparer un peu, l'école et toutes ces choses-là. Et donc, pour aller à la crèche, il fallait aller faire une visite médicale. Et elle allait chez le médecin avec sa maman. Excusez-moi. Je vais très bien, je vous rassure. Mais elle est allée chez le médecin avec sa maman. Et puis, elle n'aime pas trop le médecin. Peut-être qu'elle tient ça de son père, je n'en sais rien. Moi, je n'aime pas trop les piqûres. Et donc, ils sont allés chez le médecin. Elles sont allées chez le médecin. Et elle a été mise, pour l'ausculter, en fait, elle ne voulait pas se laisser faire. Et donc, le médecin l'a mise sous contrainte, en fait. Donc, ils l'ont tenue fort. En plus, elle cherchait l'aide auprès de sa maman. Et la maman aussi la tenait fort pour que le médecin puisse faire son travail, ce qui est normal. Mais elle s'est sentie en danger, les amis. Sous cette contrainte, elle s'est sentie en danger. Et elle a crié « Jésus ! Jésus ! Jésus ! » Elle avait à peine 2 ans. Je ne lui ai jamais enseigné à 2 ans, que lorsque tu te sens en danger, crie le nom de Jésus. Mais il y a des semences spirituelles, les amis. Il y a des semences spirituelles. Il faut faire attention à l'environnement spirituel chez toi. Il faut faire attention à l'environnement spirituel. Il faut que le sujet des enfants te tiennent à cœur. Quand on me l'a raconté, ça m'a beaucoup touché. N'oublie pas tes enfants quand tu pries. Tu dois dresser un autel particulier pour tes enfants. Tu peux prier pour ton travail, tu peux prier pour les finances, tu pries pour ce que tu veux. Moi aussi, je fais ça. Mais tu dois dresser un autel spécifique pour les enfants. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se transmettre. Cette espérance qui est la nôtre, on doit la transmettre. Parce que si tout s'arrête après toi, on n'aura pas terminé la course, en fait. Alléluia. C'est ça aussi mon espérance. L'espérance de transmettre l'espérance. L'espérance de transmettre l'espérance. Alléluia. J'ai une espérance, non pas celle qui est incertaine, comme dans le monde, mais celle qui est fondée sur un serment et sur une promesse. J'ai une espérance pratique pour les défis d'aujourd'hui. Et j'ai une espérance bien-aimée pour la félicité éternelle. Et j'ai l'espérance de transmettre l'espérance. Et la foi en Christ, la foi que j'ai en Christ soutient mon espérance. La Bible dit dans Romains 5, au verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, Père, merci pour ta parole ce matin. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ?